Il est l'heure de commencer cette séance. Pour la préparer, pour me mettre dans le bain, j'ai acheté et j'ai lu, au moins partiellement, l'anthologie composée par Raymond Trousson, Rousseau, Mémoire de la critique, 1800-1912. Les textes de 1912, c'est-à-dire du bicentenaire, sont, pour une majorité d'entre eux, extrêmement durs. Les hommes de lettres français de l'époque ne mâchent pas leurs mots. Le citoyen de Genève est dénoncé par Barrès, par Bainville, par Léon Daudet, par Maurras et par d'autres moins connus comme un ennemi de la France et un dangereux subversif. Subversif, c'est le mot choisi 100 ans plus tard, aujourd'hui donc, 2012, par le journal Le Monde pour définir Rousseau dans le hors-série qu'il publie à l'occasion du tricentenaire de sa naissance. Mais ce mot, entre-temps, est devenu positif, laudatif, on ne le prononce qu'avec enthousiasme et même gourmandisme. Subversif et dérangeant, c'est ce qu'il faut être. Subversif est le discours conforme à l'orientation des éditoriaux du Monde. Hérétique, dans la neuve langue du politiquement correct, veut dire orthodoxe. Il me semble que ni l'orthodoxie d'hier, ni celle d'aujourd'hui, ne rendent justice à la science de l'homme de Rousseau. Et je ne crois pas m'avancer en disant que les quatre orateurs que nous allons entendre ne cèdent ni à l'une ni à l'autre. Alors voici le programme. Nous entendrons d'abord Pierre Manant et Terence Marshall, puis il y aura, après leurs deux exposés de 30 minutes chacun, au maximum, une séance de questions. Nous ferons ensuite une courte pause, après quoi nous entendrons Christophe Litvin et Vincent Descombes. Voilà, alors il me reste donc à passer la parole à Pierre Manant, qui est, comme vous le savez tous, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, pour un exposé qu'il a intitulé « De Montaigne à Rousseau, le législateur impossible ». Pierre Manant.
Merci Alain. Merci de vous être joint à nous pour cette occasion. Alors, de Montaigne à Rousseau, le législateur impossible, je ne suis pas sûr de contribuer beaucoup au thème qui donne son titre à notre colloque, même si j'ai contribué à choisir ce thème. Du moins, n'ai-je pas à justifier le rapprochement des deux noms qui figurent dans le titre de cet exposé. Chacun est capable, sans effort particulier, de dresser une liste des nombreux et importants éléments de pensée qui placent Montaigne et Rousseau dans un genre commun et leur dessinent une physionomie commune. Parmi bien d'autres éléments que je pourrais cité, mentionnons seulement le propos partagé entre Montaigne et Rousseau de se dire et de se décrire sans respect pour les conventions, ou celui d'opposer à une civilisation corruptrice les droits d'une nature, principes de bonheur et d'innocence. Mais je ne suivrai pas cette démarche analytique qui ferait la liste des éléments communs. Je voudrais plutôt essayer de dégager le point de vue synthétique à partir duquel on voit, si j'ose dire, ce qui sépare les deux auteurs naître de cela même qu'ils partagent. Alors comment procéder? Il me semble, ce n'est pas une théorie, c'est une impression, il me semble que tout auteur d'une certaine ampleur et pénétration parvient, disons, à une saisie synthétique du monde humain dans lequel il vit. Plus précisément, il le perçoit comme marqué d'un certain désordre essentiel. Alors, on peut employer d'autres mots. On peut parler de crise, de malaise, de problème, de predicament. Je préfère désordre, car le mot contient son contraire. Son contraire, à savoir l'ordre visé ou envisagé par-delà le désordre. Et la différence entre cet auteur et de moindres contemporains, c'est que sa saisie du désordre est bien plus ample et aiguë, et son souci de l'ordre bien plus ambitieux et rigoureux que les leurs. On peut appeler philosophie politique ce rapport cohérent à l'ordre et au désordre collectif. Et donc je considérerai ici Montaigne et Rousseau en tant que philosophes politiques. On peut discuter, bien sûr, la rigueur, la cohérence ou la pertinence de sa pensée. On ne contestera pas, je crois, que Rousseau ne soit un philosophe politique, un philosophe politique qui mérite d'être compris et évalué en tant que tel. Le cas de Montaigne est plus incertain. Il n'est pas trop difficile de dégager les vues, ou du moins des vues politiques de Montaigne, et de les relier à ce que fut son action dans la situation politique désordonnée et même chaotique de son temps. Alors, la politique de Montaigne est-elle cohérente ? On en a discuté, on en discutera. On se demandera, par exemple, si son conservatisme affiché, proclamé même, s'accorde, et comment, avec son âpre souci de la liberté de conscience. Mais même si nous dégageons une politique de Montaigne cohérente, il y a de bons livres sur la question, même si nous dégageons une politique de Montaigne cohérente, nous restons loin, semble-t-il, d'une philosophie politique susceptible d'être comprise et évaluée comme telle. Le coefficient d'impact, comme nous disons désormais, le coefficient d'impact universitaire n'est peut-être pas la meilleure manière d'évaluer les professeurs et les auteurs, mais il est clair que Montaigne, selon ce critère, n'est pas généralement reconnu comme un philosophe politique de plein exercice. Il n'a, pour ainsi dire, pas de place dans les histoires de la philosophie politique. C'est un signe. Alors ce n'est pas à moi de déclarer les balances fausses ou le mettre étalon trop long ou trop court, mais je voudrais vous présenter brièvement, très brièvement, la manière dont, me semble-t-il, Montaigne décrit la constitution du monde humain, son désordre et ses ressources d'ordre, s'il y en a, bref, sa philosophie politique. Ce qui donne sa forme au monde humain, selon Montaigne, c'est ce qu'il appelle la coutume ou les lois. Et ici, j'en demande pardon à certains habitués du séminaire du vendredi qui ont déjà entendu cela plus d'une fois. Ce qui donne sa forme au monde humain, c'est ce que Montaigne appelle la coutume ou les lois. Et Montaigne, vous le savez, subsume les lois sous la coutume. L'humanité, nous explique-t-il au chapitre 1.23 des Essais, est divisée en un nombre indéfini de coutumes qui sont toutes à peu près également accompagnées de raisons. Et cela n'aurait pas de sens de déclarer telle coutume meilleure que les autres que l'on dirait barbares, car il est impossible aux hommes de tirer de leur expérience des choses humaines un critère du bien, du beau, du vrai, qui permettrait de classer, de hiérarchiser les façons de vivre. Nous sommes toujours déjà pris dans la coutume dans laquelle nous sommes nés. Nous avons toujours déjà pris le pli de la coutume. Alors, cet aspect de la pensée de Montaigne est très populaire aujourd'hui, car Montaigne nous précède ainsi dans l'ouverture à la diversité des cultures, qui est devenue la vertu principale, et pour ainsi dire unique, des démocraties très avancées. Montaigne, cependant, mesure les implications de cette attitude, ce que nous ne faisons pas toujours. Le relativisme culturel, employons notre vocabulaire, qui n'est pas celui de Montaigne, mais l'idée s'y trouve, le relativisme culturel a une implication ou une présupposition qui appartient à la philosophie politique. Le relativisme culturel implique ou présuppose que le débat sur le meilleur régime, donc le cœur de la philosophie politique, que le débat sur le meilleur régime est un vain exercice. La raison arrive toujours trop tard. La raison arrive toujours trop tard et ne trouve pas où s'appuyer sérieusement. Écoutons notre philosophe politique Montaigne, je le cite, essai 3.9 de La Vanité, tome 3, page 266, dans l'édition de l'Imprimerie nationale. Je lis le texte de Montaigne. « La nécessité compose les hommes et les assemble. Cette couture fortuite se forme après en loi, car il en a été d'aussi farouche, loi, qu'aucune opinion humaine puisse enfanter, qui toutefois ont maintenu leur corps avec autant de santé et longueur de vie que celle de Platon et Aristote sauraient faire. Et certes, toutes ces descriptions de police, feintes par art, se trouvent ridicules et ineptes à mettre en pratique. » Ces descriptions de régime, police est mis pour politeia, de régime politique. Ces grandes et longues altercations de la meilleure forme de société et des règles plus commodes à nous attacher sont altercations propres seulement à l'exercice de notre esprit. Nous prenons les hommes obligés déjà et formés à certaines coutumes. Nous ne pouvons guère les tordre de leurs plis accoutumés que nous ne rompions tout. Non par opinion, mais en vérité, l'excellente et meilleure police est à chacune nation celle sous laquelle elle s'est maintenue. » Fin de citation. Vous le voyez, Montaigne s'attaque ainsi explicitement, catégoriquement, et pour ainsi dire solennellement, non pas à telle doctrine philosophique ou politique, mais à la philosophie politique en tant que telle, dans sa définition fondatrice. Relevons-le, détail qui sera remarqué par les lecteurs attentifs de Montaigne, il mentionne ensemble Platon et Aristote, ici, qu'il considère ailleurs, toujours séparément et avec une sympathie très inégale. Aristote étant en somme, vous le savez, avec Cicéron, son souffre-douleur favori. Or ici, Platon et Aristote sont conjoints, et pour une bonne raison, parce qu'il s'agit des deux grandes autorités de la philosophie politique, des deux grands maîtres, si je puis dire, de la question du régime. Ils sont les deux grands législateurs de la Grèce. Et par extension successive de leur empire, les deux grands législateurs de Rome et de la chrétienté. Bref, s'il faut résumer d'un mot, peut-être ne le faut-il pas, mais s'il faut résumer d'un mot la démarche de Montaigne dans sa relation à la philosophie politique, nous dirons simplement que Montaigne congédie la figure dans laquelle la philosophie politique s'est constituée et s'est fondée, à savoir la figure du législateur. Comment définir le législateur? Je propose cette définition. C'est l'être humain. Ceci n'est pas anodin ou trivial, c'est l'être humain en qui la raison devient capable de commander. L'être humain en qui la raison devient capable de commander. Congédiant le législateur, Montaigne exclut du monde humain la raison qui commande. Il est aussi sensible que Platon ou Aristote au désordre des choses humaines, mais il ne croit pas que la raison humaine soit capable de le rectifier ou de le guérir. Si cette interprétation est exacte, Montaigne est ce philosophe politique qui, en pleine conscience des enjeux, déclare impossible la philosophie politique. La raison humaine est bien active dans tout ce qui est humain, mais enveloppée dans le pli de la coutume, elle ne peut s'en dégager pour venir commander aux choses humaines à la lumière d'un critère universel. La raison humaine, pourrait-on dire, est toujours commandée par quelque chose qui est déjà là. Et congédiant la philosophie politique ancienne, Montaigne écarte par anticipation la philosophie politique moderne, avec sa confiance presque illimitée dans les capacités de l'art politique à ordonner le monde humain. Alors, direz-vous, que lui reste-t-il à proposer ? Quelle ressource d'ordre ? Eh bien, vous le savez, de son analyse de notre désordre, il tire le seul principe d'ordre concevable qui consiste en l'obéissance pure et simple. L'obéissance pure et simple. Les hommes doivent obéir à la loi, non parce qu'elle serait juste, mais parce qu'elle est loi. Parmi bien d'autres citations que je pourrais faire ou citer, celle-ci, peut-être la plus rassemblée, dense, je cite, chapitre 13, chapitre final du livre 3, chapitre final des Essais. « Or, les lois se maintiennent en crédit, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. C'est le fondement mystique de leur autorité, elles n'en ont point d'autre. » Voilà, si j'ose dire, dans un dé à coudre, comme on dit en anglais, la philosophie politique de Montaigne. Maintenant, je vous invite à une expérience de pensée. Imaginons que Montaigne se propose néanmoins de légiférer. Qu'il se propose néanmoins de légiférer sur la base de cette compréhension du monde humain qui exclut que la raison puisse être législatrice. Imaginons qu'il veuille commander à partir d'eux ou selon la perspective de l'homme commandé. Et imaginons Montaigne législateur quand même. Eh bien, c'est la thèse de ce bref exposé. Montaigne, législateur quand même, c'est Rousseau. C'est Rousseau législateur et le législateur de Rousseau. Voilà la thèse annoncée et que je voudrais sinon justifier à la satisfaction générale, du moins rendre plausible. Montaigne recommande l'obéissance à la loi établie. La seule justice accessible aux hommes est l'obéissance à la loi établie, même si celle-ci est injuste. Alors Montaigne ne dit pas qu'il est juste d'obéir à une loi injuste. Je ne crois pas qu'il le dise. En tout cas, not in so many words. Il laisse indéterminé le statut du juste politique. Rousseau n'imite pas cette abstention. Il entend déterminer le juste politique. Ainsi, il revient dans le cercle de la philosophie politique. Son propos est alors de déterminer les conditions d'une juste obéissance. D'une juste obéissance. Alors, le substantif comme l'adjectif mérite également d'être souligné, mais il est important pour nous, à ce point, de marquer que la question de la justice posée par Rousseau porte sur l'obéissance. Celle-ci, d'ailleurs, est dite légitime plutôt que juste. Comme Montaigne, il considère d'abord et pour ainsi dire exclusivement l'homme obéissant. L'accès à l'ordre, la source d'ordre, est dans une certaine forme d'obéissance. La loi établie n'est pas nécessairement injuste, elle est souvent injuste. Ni Montaigne, ni Rousseau n'en doutent. Mais l'un et l'autre pensent que nous n'avons aucun accès à un critère rationnel de justice à partir duquel nous pourrions légiférer. Pour Montaigne, nous l'avons vu, c'est parce que notre raison est toujours déjà enveloppée par la coutume. Quant à Rousseau, et ici il faut résumer brutalement un argument qui prendrait du temps, quant à Rousseau, il suffira ici de rappeler qu'à ses yeux, l'homme est par nature un être absolument indépendant, et qu'il est donc impossible de tirer de l'expérience de l'association humaine les critères de la bonne, de la juste association. Pour Rousseau aussi, il s'agit d'obéir à la loi établie parce qu'elle est établie, avec ce complément ou cette complication par rapport à Montaigne, qu'elle doit être établie de la manière juste. Ici, il faut prendre garde. Ne disons pas, finalement, Rousseau se pose le même problème que Platon et Aristote, celui des lois les plus justes possibles, il lui donne seulement une réponse différente. Non. Il ne s'agit pas pour lui, comme c'était le cas pour les Grecs, de donner les lois les plus conformes à un critère de justice, puisqu'il n'existe rien de tel à ses yeux, pas plus qu'aux yeux de Montaigne. Il s'agit d'établir les lois de la manière juste, non pas d'établir les lois justes, mais d'établir les lois de la manière juste. Mais ces lois ne seront pas conformes à un critère qui n'existe pas. Leur justice, si l'on peut parler de justice, réside dans le mode de leur établissement. Au terme du processus, elles ne sont rien de plus que les lois établies. Je le note, le mot de justice est absent du chapitre 1.6 dans lequel Rousseau expose les causes, le processus et les résultats du contrat social. Si nous sommes tentés de considérer que la distinction que je propose ici est verbale, c'est que l'approche de Rousseau est depuis longtemps la nôtre, et que nous comprenons le juste politique comme résidant dans l'obéissance légitime, qui n'est pourtant, selon la philosophie politique classique, que la moindre partie du juste politique qui réside principalement dans le juste commandement. Établir de manière rigoureuse la distinction entre la justice politique classique ou grecque qui réside principalement dans le commandement, et la justice politique moderne, qui réside pour ainsi dire exclusivement dans l'obéissance, dépasserait le propos de cet exposé. Je peux cependant fournir un indice significatif, sinon une preuve, du fait que la conception rousseauiste de la loi ne sort pas du cercle de la loi établie. Si l'on obéit à la loi établie parce qu'elle est établie, c'est parce que nous manquons du critère rationnel qui nous permettrait de la modifier de manière judicieuse. L'immobilité de la loi et l'absence d'un critère rationnel de justice s'entrappartiennent. Or, la loi, selon Rousseau, que le contrat social établit, et qui donc paraît comporter un mouvement, est en fait une loi immobile et immobilisante. Comme Rousseau le souligne de tant de façons, elle ne fait que consacrer l'état des propriétés, ou plutôt des possessions, au moment où elle est établie. Au lieu d'instituer la juste distribution des propriétés, ce que ferait la loi donnée par le législateur ancien, par exemple au prix d'une répartition différente des propriétés, la loi de Rousseau s'établit en consacrant la répartition qui est déjà là. La législation ancienne produit une loi qui change la disposition des choses à la lumière d'un critère immobile. La démarche rousseauiste produit une loi qui épuise sa vertu dans la justification et l'immobilisation d'un état de fait. Rousseau nous en avertit dès les premières lignes du contrat social. Il ne s'agit pas pour lui d'élaborer les critères d'un juste changement de l'ordre établi, mais de légitimer un ordre qui est déjà là. Parole, bien sûr, de précaution, car par ailleurs Rousseau déteste l'ordre établi, mais parole qui livre en même temps le secret de la loi rousseauiste. Avec quelle surprise les lecteurs de Rousseau découvrent dans son œuvre les signes d'un conservatisme moins déclaré, mais en somme plus systématique que celui de Montaigne. Tout cela est bel et bon, dira-t-on. Je suppose que l'on dira que cela est bel et bon. Mais la thèse défendue ici se heurte, bien sûr, à une objection invincible. Comment soutenir que Rousseau écarte, comme Montaigne, la figure du législateur et la philosophie politique qui la fonde, alors que, bien sûr, le chapitre du législateur est un des plus fameux du contrat social. Il est vrai que Rousseau déclare le législateur nécessaire afin d'obliger les particuliers à vouloir le bien qu'ils voient et d'apprendre au public à connaître le bien qu'il veut. Cependant, aussi haut que Rousseau élève la figure du législateur, aussi éloquent qu'il soit dans l'évocation de ses exploits, il est en réalité presque entièrement silencieux sur l'action effective que l'on pourrait attendre de celui-ci. Son législateur ne rencontre, pour ainsi dire, jamais les citoyens. Comment serait-il autrement, puisque Rousseau nous décrit une tâche à ce point difficile qu'elle en devient humainement impossible. Mais alors, dira-t-on, ce chapitre serait-il simplement décoratif? C'est impossible à croire. Ce chapitre n'est certainement pas décoratif, même s'il est aussi brillant, et même plus qu'il est possible. À quoi rime-t-il alors? Il s'agit pour Rousseau, me semble-t-il, d'élever le législateur le plus haut qu'il est possible au-dessus des citoyens pour lesquels il légifère. Entre eux et lui, il n'y a pour ainsi dire rien de commun. En particulier, ils n'ont pas la raison en commun. On notera que Rousseau ne mentionne aucun législateur athénien. S'il célèbre les grands législateurs religieux, et bien sûr, Lycurgue. Supposons que malgré tout, le législateur selon Rousseau ait effectivement accompli sa tâche. Ses lois seront étrangères à la raison des citoyens, s'il faut les appeler citoyens, aussi étrangères à la raison des citoyens que les lois de la nature. Les citoyens obéiront simplement aux lois établies. Avec quelles ailes ils obéiront aux lois établies? Contrairement à ce qui est souvent dit, et j'attends pour protestation, contrairement à ce qui est souvent dit, la figure du législateur n'ajoute rien de substantiel au chapitre du contrat social 1.6. Tout au plus, s'il est bien lu, fait-il ressortir le caractère essentiellement obéissant du citoyen de la cité du contrat. Pas plus dans un cas que dans l'autre, il ne s'agit de gouverner une chose commune, seulement de produire un « moi » commun. Ceux qui obéissent n'obéissent pas à un commandement, plus ou moins juste, plus ou moins prudent, plus ou moins courageux, fût-il le leur propre. Ils parviennent à une identification, plus ou moins complète, avec le tout du corps politique, un corps politique qui n'est qu'obéissance. Et c'est pourquoi l'exposé de Jean-François Perrin hier était aussi intéressant pour nous, en mettant l'accent sur l'importance de ce mot d'identification. Ils parviennent à une identification, plus ou moins complète, avec le tout du corps politique, encore une fois, un corps politique qui n'est qu'obéissance. Le législateur de Rousseau ne légifère pas. La première raison en est que la condition d'une législation manque. Quelle condition? Un monde humain qui soit rebelle mais accessible à la raison. S'il n'était pas rebelle à la raison, il n'aurait pas besoin de législation. S'il n'était pas accessible à la raison, la législation serait impossible. Un monde où certaines passions sont à la fois les ennemis et les servantes potentielles de la raison. Où le législateur travaille à l'articulation de la raison et des passions, c'est-à-dire des ressorts généraux ou communs de la nature humaine. Le législateur classique travaille à l'articulation de la raison et des passions, c'est-à-dire des ressorts généraux ou communs de la nature humaine. Le législateur de Rousseau, dans la mesure où nous pouvons deviner à quoi il s'occupe, ordonne un peuple particulier. Et les lois, au lieu de produire des citoyens plus ou moins courageux, plus ou moins justes, plus ou moins tempérants, s'adapte simplement à la nature des choses, c'est-à-dire à l'ensemble des rapports naturels qui définissent la particularité du peuple concerné. Au fond, le législateur lui-même, au lieu de commander, ne fait qu'obéir à la particularité du peuple qu'il est censé mettre en forme. Au chapitre 2.7, intitulé « Du législateur », le législateur était un dieu. Au chapitre 2.11, des divers systèmes de législation, vous vous en souvenez, Rousseau cite Montesquieu, le législateur est sociologue, géographe, météorologue, arpenteur, une vraie école de sciences humaines et sociales en une personne. Ce que le législateur n'est jamais, un homme dont la raison commande aux passions en usant judicieusement des passions. Il nous reste, et c'est la dernière partie de mon propos, la conclusion presque, il nous reste à considérer le témoignage de Rousseau lui-même après qu'il a accepté la tâche de législateur, enfin un législateur humain dans l'œuvre de Rousseau. Voyez comment il s'adresse aux Polonais. Donnez une autre pente aux passions des Polonais, vous donnerez à leurs âmes une physionomie nationale qui les distinguera des autres peuples, qui les empêchera de se fondre, de se plaire, de s'allier avec eux. Aimant la patrie, ils la serviront par zèle et de tout leur cœur, avec ce seul sentiment, la législation fût-elle mauvaise, ferait de bons citoyens. Plus loin, il faut maintenir et rétablir ses anciens usages et en introduire de convenables qui soient propres aux Polonais. Ces usages, fussent-ils indifférents, fussent-ils mauvais même à certains égards, pourvu qu'ils ne le soient pas essentiellement, auront toujours l'avantage d'affectionner les Polonais à leur pays et de leur donner une répugnance naturelle à se mêler avec l'étranger. Certes, avec une telle idée de la législation, nous pouvons laisser derrière nous, pour reprendre les termes de Montaigne, ces grandes et longues altercations de la meilleure forme de société. Nous pouvons laisser derrière nous la question du meilleur régime, c'est-à-dire du bien. Rousseau, législateur, est plus préoccupé des usages que des lois proprement dites, des usages qui n'ont pas besoin d'être bons, pourvu qu'ils soient particuliers et même exclusifs, c'est-à-dire excluants, des usages qui sont l'objet d'une adhésion du sentiment. Et donc, si nous imaginons le monde humain formé ou réformé par 1000 législateurs à la mode de Rousseau, il ressemblerait beaucoup, je crois, au monde de Montaigne, fragmenté en autant de coutumes particulières et incapable de communiquer entre elles et dépourvu d'un critère commun que la raison pourrait découvrir ou élaborer. Pour l'un comme pour l'autre, la législation est en toute rigueur impossible. Pour conclure, vraiment cette fois, je voudrais décrire la démarche du philosophe politique, la démarche de philosophe politique de Rousseau, d'une autre façon encore. D'une façon qui en fasse ressortir à la fois la cohérence presque violente et l'étrangeté presque incompréhensible. L'instauration de la cohésion et pour ainsi dire de la compacité affective dans la cité a pour but d'empêcher le développement des passions et donc la division sociale et politique qui en serait la suite, et d'éviter par là même de devoir recourir à la raison pour arbitrer cette division. Il ne s'agit pas pour Rousseau d'ordonner une cité qui commence à être, il s'agit de prévenir sa naissance et d'immobiliser un ordre humain avant qu'il ne devienne une cité en attente d'un législateur. Il s'agit d'empêcher que s'ouvre jamais la position ou la dimension du législateur, c'est-à-dire celle de la raison commandante. S'il ne saurait y avoir de raison commandante, la loi sera entièrement divorcée de la raison. Rousseau le souligne sur un ton de triomphe agacé. Il ne faut plus demander si la loi peut être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même. On ne peut atténuer l'énormité du propos en disant que cette proposition ne concerne que la cité bien ordonnée. C'est le principe qui est en cause. S'il existe un critère rationnel du bien humain, on peut évidemment être injuste envers soi-même. Si nul n'est injuste envers lui-même, c'est qu'il n'y a pas de critère rationnel du bien humain. Avec une sincérité, une rigueur et une virtuosité inégalées, Rousseau, pour ainsi dire, a réécrit toute la partition de la philosophie politique sur la portée de la raison commandée. Avec force paroles péremptoires et gestes impérieux, il a donné forme et éclat à un être qui ne sait, qui ne peut, qui ne veut qu'obéir. En feignant de le diviniser, il nous a rendu suprêmement antipathiques, en vérité impossible à comprendre ou à imaginer, la figure de l'homme qui commande, la figure du législateur. Et donc, Je ne sais pas si c'est le fêter à la manière de 1912, de 2012 ou de 2112, mais c'est, je dirais, en nous armant contre ces prestiges que nous apprendrons non pas à commander, cela est trop fort pour nous et nous ne désirons pas commander, en tout cas à désobéir, ou au moins à essayer de désobéir. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pierre Manant, pour cette communication fascinante et qui suscitera, je crois, un vif débat. Donc, je vous remerciais pour cette communication qui était fascinante et qui, disais-je, suscitera sans doute un important débat. Mais je voudrais maintenant passer la parole à Terence Marshall, qui a été maître de conférence, il est maintenant à la retraite, oui. C'est ça, à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Il est l'auteur d'un livre important, À la recherche de l'humanité dans la philosophie politique de Rousseau, Léo Strauss et James Madison, qui est paru aux Presses universitaires de France, dans la collection Léviathan, je crois. Et le titre de sa communication est celui-ci, L'Émile de Rousseau, Bewegungsgrund de la philosophie critique. À vous la parole, Terence Marshall.
Je rapprocherai ma communication avec celle de mon ami Pierre Manant, dans le sens où l'accent porté sur l'Émile de mon texte peut être lu par rapport au contrat social, dans le sens de ce que dit Rousseau sur... le contrat social, il dit que c'est une sorte d'appendice à l'Émile. Dans un sens, puisqu'il dit dans le contrat social qu'il ne va pas expliquer dans cet ouvrage le sens philosophique de l'idée de la liberté, il a donné cette explication ailleurs. On peut bien penser qu'on trouvera cette explication élaborée dans l'Émile. Lorsqu'on pense au rapport entre Rousseau et la science de l'homme, on se rappelle l'étude de Durkheim, Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie. Que le baron de la Brède ou le citoyen de Genève fussent ou non de tels précurseurs, il reste pour ce qui est du social, surtout porté vers la politique. Ainsi, répondent-ils d'autant mieux à la question posée dans un numéro récent de la revue Commentaire, notamment sur le rapport qui existe entre la sociologie, la philosophie et la morale. La sociologie en soi fait abstraction du régime politique qui englobe le social et qui occupe tant Montesquieu et Rousseau. De plus, la distinction entre sociologie conçue comme science et philosophie conçue comme non scientifique occulte la distinction entre trois modes de raison, science, poésie ou raison pratique, et partant la question philosophique antérieure à l'adoption des méthodes de recherche, lequel des trois modes de raison est le plus apte à saisir les choses humaines. Tandis que la sociologie de Durkheim provient des tentatives des Lumières de faire de l'étude politique une science distincte de la morale, Rousseau s'est fait d'abord connaître comme opposant au mouvement des Lumières au nom de la morale. Pourtant, cette opposition n'exprime pas seulement la thèse d'une contradiction entre la vulgarisation des sciences et le maintien des mœurs. Son argument prépare de plus une nouvelle tradition empirique à l'encontre de celle issue des Lumières. Ceux, dit-il, qui voudront traiter séparément la politique et la morale n'entendront jamais rien à aucune des deux. Et quant au devoir en sciences sociales d'observer l'être en abstraction du devoir-être, Rousseau affirme qu'en politique comme en médecine, je cite, « il faut savoir ce qui doit être pour bien juger de ce qui est ». Fin de citation. Pour lui, toute la perception des choses humaines correspond à un jugement, et un jugement correct suppose un esprit critique. Ainsi, contre le relativisme de la méthode mathématique des Lumières, Rousseau réintroduit en philosophie moderne la question de l'être, et contre la primauté de l'autoconservation avec confort comme finalité des hommes sociaux, Rousseau réintroduit la vitalité d'une élévation de l'âme. Enfin, contre l'objectif d'une société utilitaire et laïque composée d'égoïstes intéressés, Rousseau réintroduit un principe de vertu morale. Quelle forme de raison sous-tend donc l'empirisme critique qu'il préconise, et quels sont les fondements et les conséquences de ce choix ? L'importance de Rousseau pour la philosophie morale d'Emmanuel Kant a été souvent constatée. Bien que dans les études universitaires, Rousseau soit conçu plutôt comme un littéraire et Kant comme l'expression même du rationalisme, le philosophe allemand ne voyait pas entre eux un écart considérable. Peu après sa lecture de l'Émile, Kant a écrit dans ses Bemerkungen les célèbres remarques suivantes. Je suis moi-même par inclination un chercheur. Je ressens toute la soif de connaître et l'inquiétant désir d'avancer en cette voie, ou encore le contentement lors de tout progrès accompli. Il fut un temps où je croyais que cela seul pouvait constituer l'honneur de l'humanité, et je méprisais le peuple qui est ignorant de tout. C'est Rousseau qui m'a remis sur le droit chemin. Cette supériorité qui m'aveuglait disparaît. J'apprends à honorer les hommes et je me trouverai plus inutile que le commun des travailleurs si je ne croyais que cette considération puisse conférer à toutes les autres cette valeur, établir les droits de l'humanité. Fin de citation. Cependant, contrairement à Rousseau, la primauté de la morale chez Kant ne l'empêche pas d'être aussi un défenseur fervent des Lumières, qui qualifie par la devise « sapere aude » sans s'occuper, tant semble-t-il, de la tension entre cette audace et les mœurs, ni par conséquent de ceux qui inciteraient les hommes, malgré leur passion ou intérêt, à respecter surtout la morale. Encore contrairement à la défense rousseauiste du naturel comme critère du bien, y compris du bien de la liberté, Kant place la volonté de l'homme moralement libre au-dessus de tout ce qui est naturel. Pourtant, la primauté de cette liberté formelle, où la finalité se trouve non dans l'objet du choix, mais dans le maintien de la capacité de choisir, conduit à la question du nihilisme relevée à l'encontre de Kant, d'abord par Jacobi, ensuite par Schopenhauer et enfin par Nietzsche. Ces critiques de formalisme kantien ne tiennent pas compte toutefois de l'éloge que fait Kant, précisément de l'optimisme de Rousseau, face au pessimisme ou au nihilisme de la version des Lumières qui le précède. Je cite, « Rousseau fut le premier à découvrir sous la diversité des hommes humains admises, des formes humaines admises, la nature profondément cachée de l'homme et la loi secrète selon laquelle la Providence se trouve par ses observations justifiées. Après Newton et Rousseau, Dieu est justifié, et dorénavant la doctrine de Pope est vraie. » Fin de citation. Le problème est de savoir en quoi consiste cette nature cachée et cette loi secrète dont la découverte éveille un saisissement tel chez Kant que juste avant d'affirmer que c'est Rousseau qui m'a remis sur le droit chemin, il lui fait cet éloge qui dépasse de loin ce qu'il dit dans ses prolégomènes sur l'importance de David Hume. Je cite, « La première impression éprouvée par un lecteur intelligent qui ne lit pas les œuvres de M. Jean-Jacques Rousseau purement par vanité ou pour passer le temps, est qu'il rencontre là une perspicacité d'esprit peu commune, un noble élan de génie et une riche sensibilité d'âme, et ce, à un degré tel que peut-être jamais un écrivain, quelle que soit l'époque ou le peuple auquel ils appartiennent, ne les ait possédés réunis. » Fin de citation. Le formalisme sec de la philosophie de Kant, si différent de la vigueur raffinée des écrits de Rousseau, n'empêche pas le premier d'apprécier la perspicacité et l'élan de la pensée du Genevois. Mais dans la suite du texte qui vient d'être cité, Kant évoque également l'étonnement du lecteur devant ses opinions étranges et paradoxales, et ceci mérite d'être comparé à ses remarques faites quelques pages auparavant. « C'est une incommodité pour l'entendement que d'avoir du goût. Il me faut lire et relire Rousseau, jusqu'à ce que la beauté de l'expression ne me perturbe plus du tout. Alors seulement, je peux appliquer ma raison à la comprendre. Il s'agit de savoir si Kant a réussi. La signification du goût, voire de l'esthétique, pour la pensée de Kant se manifeste déjà, bien avant sa critique du jugement, dans ses remarques touchant les observations sur le sentiment du beau et du sublime, rédigées en 1764-65 après sa lecture de l'Émile. Et de même que Heidegger l'a montré, l'importance de l'esthétique transcendantale de Kant comme fondement de son formalisme, quoique voilée dans la deuxième version de la critique de la raison pure, est évidente dans la première édition de l'ouvrage. Dans sa déconstruction de la métaphysique de Kant, pourtant, Heidegger y ignore les racines provenant de Rousseau, de même qu'il les ignore dans ses études ultérieures de la poésie de Hölderlin. Or, une étude de ses origines peut aider à mieux saisir le problème de la perception politique, non seulement dans la pensée de Kant, mais aussi de ses successeurs dans la philosophie et la sociologie critique. Certes, comme noté ci-dessus, à la différence de l'analyse rousseauiste de la liberté par rapport à la nature, Kant fait abstraction de la nature humaine dans sa philosophie pratique et il prouve la possibilité de la liberté morale indirectement par la capacité des hommes sociaux d'obéir aux lois qui se donnent. Cette différence entre Rousseau et Kant correspond toutefois à celle qui prévaut entre Rousseau et son vicaire savoyard, une distinction conforme à l'argument avancé dans l'Émile que les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme. Pour Rousseau, à la différence de Kant, il existe de bonnes et de mauvaises formes d'aliénation. De là, les principes fondamentaux de liberté et de nature sont supplantés en société civile par ceux de liberté et d'égalité. Ainsi, Pour Rousseau, de même que pour Kant, mais suite à des raisonnements différents, le problème de la nature humaine est occulté dans la politique par celui de l'égalité. Néanmoins, la preuve kantienne que les hommes soient également libres et même dignes de par leur capacité d'obéir aux lois qui se donnent suscite toujours la question. Pourquoi les hommes, dans l'état d'aliénation de leur nature, seraient-ils disposés à répondre aux exigences de la morale sans attachement sensible à celle-ci? Dans ses réflexions, la réponse de Kant énonce déjà la nécessité d'un principe moral fondé sur la généralisation de la volonté personnelle en loi universelle qui restreint la liberté humaine et permet à la volonté d'être en accord avec elle-même. Or, face aux passions et aux intérêts, cette réponse, rappelant non seulement Rousseau mais Diderot, ne fournit qu'un mobile formel et ne contourne pas l'accusation de nihilisme qui lui sera plus tard portée. Kant tient compte du problème, non seulement dans la troisième critique, lors de son argument sur l'éducation culturelle, Bildung, mais aussi dans la seconde critique, lorsqu'il avance ses postulats de la raison pratique. Ces postulats sur l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, mais pas celui sur le progrès de l'histoire, s'accordent en fait avec les principes du vicaire savoyard. Pourtant, ils font abstraction du principe antérieur que préconise Rousseau dans l'Émile pour orienter le jugement critique, le principe du sentiment de l'humanité. En revanche, sans les postulats de religion ou d'histoire progressiste, quel est pour Kant le principe qui anime la raison pratique ? La reconnaissance de la liberté de chacun suffit-elle pour rapprocher les êtres humains ? Dans ses Bemerkungen, Kant n'évoque que l'unité des êtres promue par le désir sexuel ou par le respect pour les autres. Mais quel est le principe qui motive l'amour ou le respect ? Kant reste ambigu sur ce point. Est-ce enfin la raison formelle, l'esthétique transcendantale ou la beauté d'expression par laquelle Rousseau forge les sentiments qui explique le tournant de Kant, plaçant les droits de l'humanité au-dessus de tout ? De la réponse à cette question dépendent peut-être le bien fondé du néo-kantisme actuel, où, face aux critiques de nihilisme et de manque de prudence, l'élan d'une sensibilité variable remplace le formalisme inflexible de l'impératif catégorique. Dans l'Émile, peu après avoir critiqué la séparation entre les études politiques et celles de la morale, Rousseau constate combien, pour la perception correcte de la politique, il est difficile, je cite, « de se mettre dans un point de vue d'où l'on puisse juger ses semblables avec équité ». Fin de citation. Cette observation sur la perception, le jugement et l'équité mérite d'être comparée à ses remarques dans les lettres écrites de la Montagne sur les différences entre liberté et indépendance. Là, d'une manière qui annonce Kant sur la primauté du droit, Rousseau indique le mouvement de la question psychologique de la volonté vers la question juridique du droit légitime. Je cite, « La liberté civile consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Dans la liberté commune, nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit. Ainsi, la liberté sans la justice est une véritable contradiction. » Il n'y a donc point de liberté civile sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Fin de citation. Si l'état de droit, l'amerture de la liberté civile, dépend d'abord d'une formation des volontés pour qu'elle ne soit ni celle des maîtres ni celle des esclaves, cela ne suffit pas toutefois pour faire d'une collection d'individus indomptés une communauté politique possédant ou possédée d'une volonté générale d'où l'on puisse juger ses semblables avec équité. Le problème de la volonté générale exige davantage la formation parmi les hommes en société d'un point de vue collectif et juste, voire d'une opinion publique ou d'un consensus qui intègre le régime. Ainsi, pour Rousseau, le problème de la volonté générale est indiqué par le problème du vouloir dont la volonté est l'expression. Si les bonnes institutions sociales dont la volonté générale est l'inébranlable clé sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme, et si pourtant le naturel est le critère du bien humain, enfin, si selon Rousseau, l'amour de soi-même est le principe de l'action, voire de la volonté humaine, comment peut-on inciter les hommes à vouloir agir d'une manière sociable, ce qui les détournera de leur bien naturel ? Tandis que la réponse avancée par le mouvement de lumière a été d'éclairer les hommes sur leurs conditions naturelles, pour éveiller en eux un esprit sans illusion voué surtout à la sécurité et au confort dans l'état rationnel. Rousseau, dans la première version du contrat social, expose nettement l'insuffisance de cet argument pour ce qui est de l'établissement d'un régime libre et juste. La solution épicurienne des premiers modernes montre toutefois comment l'homme aliéné de sa nature peut trouver du plaisir dans cet état et y vouloir rester. Si la solution que cherche Rousseau exige qu'on surmonte la précédente, celle-ci peut néanmoins fournir des leçons pour répondre à la question politique posée. Par-delà la passion d'autoconservation, comment donner aux hommes l'envie de vivre ensemble dans un état aliéné de leur bien naturel? D'emblée, si l'homme est toujours animé par l'amour de soi, la conscience de soi que lui procure en société les idées peut effectuer une métamorphose de cet amour par l'idée qu'on a de son objet, c'est-à-dire de son moi, conçu par rapport à ce qu'on entend être son humanité. Rousseau affirme qu'en société, la mutation de l'amour de soi effectuée grâce à la raison est de plus marquée par la spécificité du raisonnement, qui est d'abord la faculté de comparer les objets de la perception sensible. Quand il s'agit de se comparer avec d'autres, Rousseau maintient que puisque l'homme est animé au préalable par l'amour de soi, je cite, « le premier sentiment qu'excite en lui cette comparaison est de désirer la première place ». Voilà, dit-il, le point où l'amour de soi change en amour propre et où commencent à naître toutes les passions qui tiennent à celle-là. À ceci, il ajoute, mais pour décider si celles de ces passions qui domineront dans son caractère seront humaines et douces ou cruelles et malfaisantes, si ce seront des passions de bienveillance et de commisération ou d'envie et de convoitise, il faut savoir à quelle place il se sentira parmi les hommes et quel genre d'obstacles il pourra croire avoir à vaincre pour parvenir à celle qu'il veut occuper. Fin de citation. On notera que parmi les passions qui tiennent à l'amour propre figurent celles des passions humaines et douces, de bienveillance et de commisération. Ce rapprochement dans les milles de commisération et d'amour propre mérite d'être comparé avec ce qu'il dit sur les principes du droit dans les discours sur l'inégalité. Je cite, laissant donc les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu'à voir les hommes tels qu'ils se sont faits, et méditant sur les premières et plus simples opérations de l'âme humaine, j'y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l'un nous intéresse ardemment à notre bien-être et la conservation de nous-mêmes, et l'autre nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. C'est du concours et de la combinaison que notre esprit est en état de faire de ces deux principes, sans qu'il soit nécessaire d'y faire entrer en lui celui de la sociabilité, que me paraissent découler toutes les règles du droit naturel, règles que la raison est ensuite forcée de rétablir sur d'autres fondements, quand, par ses développements successifs, elle est venue à bout d'étouffer la nature. Fin de citation. Si ces autres fondements forgent les cœurs, les mœurs et l'opinion, qui ensemble constituent l'inébranlable clé du formalisme des principes du droit, il s'agit d'établir ces fondements dans l'âme sociale, aliéné de sa nature. Les remarques dans les milles qui précèdent et suivent celles citées sur l'amour propre et la commisération indiquent la méthodos que Rousseau poursuit dans sa culture de l'esprit critique du citoyen. Revenons d'abord sur ce qu'il dit dans le livre 3 de l'Émile concernant la formation de la raison. On constate que Rousseau y partage l'argument de Descartes, que la raison est un instrument des passions. À cet égard, de même que ces deux hommes se démarquent de la philosophie classique, ils se distinguent, semble-t-il, tout autant du vicaire savoyard que de Kant. Comme Descartes, pour qui l'activité de la raison doit être utile à la vie, Rousseau incite Émile, avant toute recherche, à se demander à quoi sert cela. La synthèse du scepticisme et du dogmatisme effectuée dans la méthodologie des premiers modernes est ainsi destinée à détourner l'esprit des questions de philosophie première pour l'orienter vers celle de la pratique. Au premier abord, ces enquêtes utilitaires, récusant toute métaphysique, sont déterminées par l'envie pratique d'éviter la douleur et d'obtenir le plaisir. De plus, l'abandon par le mouvement des lumières de la métaphysique traditionnelle conduit à l'orientation des études par la perception de ce qui est sensible, voire matériel, tout en rejetant la perception des choses en fonction de l'eidos qui constitue leur fin. Pourtant, à la suite de l'abandon par les modernes de l'idée classique des limites naturelles, la recherche de la sécurité et du plaisir du corps s'avère être une quête amenant à subordonner l'humain à l'obtention de fins matérielles qui ne seront jamais définitivement acquises, la conservation perpétuelle du corps et son plaisir ininterrompu. Bien que le caractère utopique du projet moderne fût bien compris et choisi comme tel par ses fondateurs, Rousseau estimait qu'il forgeait ainsi un esprit de dépendance durable, conduisant à une nouvelle forme de despotisme. Or, selon Rousseau, le phénomène de l'amour propre, quoique déformation de l'être naturel, expose non seulement l'insuffisance du matérialisme pour expliquer l'humain, il révèle aussi un élément de la solution aux problèmes de perception et de pratique politique. Pour parer la pensée réductrice des Lumières, L'éveil de l'amour propre parmi les hommes peut contrer l'esprit de dépendance ou de servitude qu'ébauche le matérialisme moderne. Et pour contrer Montesquieu sur l'honneur comme principe spécifique de la monarchie, on peut, selon Rousseau, construire un régime égalitaire sur la base d'un amour propre qui ne peut tolérer ni même concevoir la supériorité des autres ou l'abaissement de soi. De plus, le plaisir de la suffisance que donne l'amour propre, aussi bien que la barrière qu'il pose contre l'envie de la vérité, peut détourner l'homme de l'idée de son être naturel, donc de son bien, pour se concentrer sur les finalités de la vie civile. Ainsi, Rousseau retient le scepticisme dogmatique de la philosophie des Lumières, mais il recuse son matérialisme. Préparé par les méditations de Descartes, l'auteur de l'inachevé Matérialisme du sage revient sur le terrain de la science de l'homme pour y repenser la sensibilité comme mobile de l'action humaine. Dans l'Émile, peu après la profession de foi, et contrairement à la thèse du libre arbitre de son vicaire savoyard, Rousseau aborde le problème. Comment rendre son sensible élève docile aux leçons de la raison? Je cite, « On n'a de prise sur les passions que par les passions, c'est par leur empire qu'il faut combattre leur tyrannie, et c'est toujours de la nature elle-même qu'il faut tirer les instruments propres à la régler. » Comme précisé dans les dialogues, à l'encontre des matérialistes, Rousseau distingue dans la sensibilité, d'une part la sensation, et de l'autre le sentiment, ainsi que les plaisirs et les douleurs qui s'attachent à chacun des deux. Dans l'Émile, il affirme qu'autant les peines des sentiments produisent plus de suicides que ne le font les douleurs des sens, autant les plaisirs des sentiments peuvent primer ceux des sensations. Ainsi, le désir d'un boxeur pour le sentiment de la victoire le conduit à absorber le coup que son corps reçoit, et la joie des enfants jouant dans la neige le fait bien supporter les rigueurs du froid. Rousseau cherche donc, dans son art d'écrire, à contrebalancer l'épicurisme vulgaire du matérialisme des Lumières par un accent porté sur les plaisirs des sentiments. Par exemple, pour ce qui est des sensibilités qui intègrent la famille, son langage déploie des accents qui, dans la Nouvelle-Héloïse et l'Émile, suscitent l'appréciation pour les délices ou même les tristesses du sentiment de l'amour. Et pour ce qui est de la sensibilité du citoyen, dont la famille sert d'intermédiaire, Rousseau construit une tonalité d'expression qui éveille le sentiment de l'humanité. Ce faisant, à l'encontre de Hobbes, Descartes et Spinoza, il reprend dans l'Émile ses réflexions du second discours sur les sentiments naturels et artificiels et sur la pitié comme sentiment antérieur aux autres qui rapprochent les êtres humains. Tenant compte de la cruauté qui parfois les divise, il explique l'origine de ces sentiments divers par les effets sur soi non seulement de la raison, mais surtout de l'imaginaire. La pitié provient de la capacité d'imaginer soi-même en observant le malheur d'autrui. L'indifférence ou la cruauté proviennent des obstacles empêchant une telle identification. Si pour construire une société intégrée, la pitié doit contrebalancer l'esprit intéressé, il faudrait effacer ces obstacles, tels les différences de religion, de classe ou la conscience de celle-ci, qui oppose à l'identification de l'un avec l'autre. Je cite, « En effet, comment nous laissons-nous émouvoir la pitié si ce n'est en nous transportant hors de nous et nous identifiant avec l'animal souffrant, en quittant pour ainsi dire notre être pour prendre le sien ? Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre. Ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Ainsi, nul ne devient sensible que quand son imagination s'anime et commence à le transporter hors de lui. » Fin de citation. L'aliénation positive du soi dépend donc d'une culture de l'imagination qui touche les sentiments. La source de toutes les passions est la sensibilité, dit-il, l'imagination détermine leur pente. Fin de citation. De plus, puisque, dit-il, c'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable, ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité. Fin de citation. Ainsi, l'homme social doit ignorer ou se détourner de la question du bonheur par nature. Je cite, « Nous nous attachons à nos semblables moins par le sentiment de leur plaisir que par celui de leur peine, car nous y voyons bien mieux l'identité de notre nature et les garants de leur attachement pour nous. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. L'aspect d'un homme heureux inspire aux autres moins d'amour que d'envie. On l'accuserait volontiers d'usurper un droit qu'il n'a pas en se faisant un bonheur exclusif. » Et l'amour-propre souffre encore en nous faisant sentir que cet homme n'a nul besoin de nous. L'imagination nous met à la place du misérable plutôt qu'à celle de l'homme heureux. Fin de citation. Or, le fond d'amour-propre, figurant dans la peine éprouvée en s'identifiant au souffrant, ne signifie pas qu'en s'aliénant ainsi, l'être social ne soit plus animé par l'envie du plaisir. Bien que l'être compatissant s'attache à ses semblables en étant sensible à leur douleur, la pitié se révèle comme un mélange de peine et de plaisir. La pitié est douce, dit-il, parce qu'en se mettant à la place de celui qui souffre, on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui. Fin de citation. Au rapprochement établi entre imagination, pitié et amour propre, on constate donc un rapport entre pitié et épicurisme, portant sur les plaisirs des sentiments à la différence de ceux des sens. Je cite, « Si le premier sentiment qui le frappe est un objet de tristesse, le premier retour sur lui-même est un sentiment de plaisir. En voyant de combien de maux il est exempt, il se sent plus heureux qu'il ne pensait l'être. Il partage les peines de ses semblables, mais ce partage est volontaire et doux. Il jouit à la fois de la pitié qu'il a pour le maux et du bonheur qu'il en exempte. Il se sent dans cet état de force qui nous étend au-delà de nous et nous fait porter ailleurs l'activité superflue de notre bien-être. » Rousseau tient compte toutefois des faiblesses d'une morale de compassion appliquée sans discrimination autant aux criminels qu'à leurs victimes, et d'une manière qui recule devant les rudes épreuves que doivent subir les hommes parfois en faisant leur devoir. Pourtant, à la différence d'Aristote sur la pitié, la solution qu'il adopte se trouve non dans la modération des pâtés, mais dans la généralisation du sentiment. Je cite, pour empêcher la pitié de dégénérer en faiblesse, il faut la généraliser et l'étendre sur tout le genre humain. Il faut par raison, par amour pour nous, avoir pitié de notre espèce, encore plus que pour notre prochain. Et c'est une très grande cruauté envers les hommes que la pitié pour les méchants. Fin de citation. Le sentiment de l'humanité pourrait s'accorder donc avec la dureté envers des particuliers. Cette conclusion correspond à ce qu'il dit un peu avant sur l'amour propre et la vertu. Je cite, « Étendons l'amour propre sur les autres êtres, nous le transformerons en vertu. Il n'y a point de cœur d'homme dans lequel cette vertu naît sa racine. Moins l'objet de nos soins soit immédiatement à nous-mêmes, moins l'illusion de l'intérêt particulier est à craindre. Plus on généralise cet intérêt, plus il devient équitable. Et l'amour du genre humain n'est autre chose en nous que l'amour de la justice. » Fin de citation. Paradoxalement, cet amour du genre humain ne provient donc pas de l'amour pour chacun de ses membres, mais au contraire de l'amour de l'humain qui se trouve en soi-même. Je cite, « Car chacun est parti de son espèce et non d'un autre individu. » Fin de citation. Loin d'être une abstraction universelle détachée des sensibilités particulières, le principe de l'humanité acquiert son poids politique du fait qu'il soit issu du mobile de l'amour propre. De plus, l'idée politique de l'égale dignité des hommes, qu'exprime la généralisation en question, flatte l'amour propre du grand nombre et se propage d'autant plus efficacement que ne le ferait le principe classique de la justice distributive. Autrement dit, dans le sentiment de l'humanité, les plaisirs associés à la pitié sont augmentés par ceux de l'amour propre ou de bons témoignages de soi que sont les personnes compatissantes. Dans ses réflexions sur la pitié, Rousseau ébauche cette conclusion de la façon suivante. Je cite, « Quand on a souffert ou qu'on craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent. Mais tandis qu'on souffre, on ne plaint que soi. Or, si tous étant assujettis aux misères de la vie, nul n'accorde aux autres que la sensibilité dont il n'a pas actuellement besoin pour lui-même, il s'ensuit que la commisération doit être un sentiment très doux, puisqu'elle dépose en notre faveur. » Fin de citation. Si le sentiment de l'humanité est le fondement de la justice, et si se consacrer à la justice correspond à la vertu du citoyen, je cite, « La gloire de la vertu et le bon témoignage de soi, selon le vicaire savoyard, conduisent, encore, je cite, à la suprême jouissance qui est dans le contentement de soi-même. » Fin de citation. Ce rapprochement de la morale, de l'amour propre et de la jouissance du bon témoignage de soi est destiné à forger l'encre de l'esprit critique, résistant aux effets corrosifs du scepticisme et du matérialisme des Lumières. Ainsi que s'explique dans l'âme la métamorphose contradictoire esquissée au début de l'Émile à partir de l'amour de soi de l'homme naturel et vers le sentiment de l'existence commune que partage l'homme civil avec ses concitoyens aliénés. Je cite, « L'homme naturel est tout pour lui. Il est l'unité numérique, l'entier absolu qui n'a de rapport qu'à lui-même ou à son semblable. L'homme civil n'est qu'une unité fractionnaire qui tient au dénominateur et dont la valeur est dans son rapport avec l'entier qui est le corps social. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme, lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, et transporter le moi dans l'unité commune, en sorte que chaque particulier ne se croit plus un, mais partie de l'unité, et ne soit plus sensible que dans le tout. » Fin de citation. La culture du sentiment de l'humanité est destinée à établir l'unité de ce moi commun, la volonté populaire, qui sert d'intermédiaire entre la poursuite du bien particulier et le bien général. Quand son législateur philosophe ou l'observateur qui sait l'art de sonder les cœurs en travaillant les former, Rousseau conçoit le ton poétique de son langage pour, je cite, « perfectionner la raison par le sentiment », fin de citation, et par là pour éveiller une passion, la compassion, rattachée à une forme d'amour propre, le sentiment de la dignité, compatible avec l'idée de l'égalité des hommes. Tel un compositeur qui, par sa musique, touche ses auditeurs sans qu'ils comprennent les fondements de l'art qu'ils entendent, Rousseau cherche, par l'accent de sa poésie en prose, à atteindre la sensibilité de ses lecteurs pour transformer ainsi leurs esprits. De là, rappelant le dénigrement par Aristophane de la science présocratique, il remplace celle des Lumières par une esthétique nouvelle, indiquée par l'ouverture du contrat social. L'aporie « l'homme est né libre et partout il est dans les fers » provoque moins de curiosité que d'indignation. Et ce sentiment empêche que l'on réfléchisse trop sur la suite. Qu'est-ce qui peut le rendre, c'est-à-dire ce changement dans les fers, légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. En accord avec sa critique des Lumières, les charmes de la stratégie esthétique de Rousseau font des plaisirs de l'amour propre, de l'indignation morale et du bon témoignage de soi, des gardiens du jugement politique qui, lorsque ralliés au scepticisme dogmatique de la philosophie moderne, requéraient pour être repensés une cruauté peu probable envers soi-même. L'aversion de repenser l'agrément du principe en soi de l'être social fournit la source durable de la deuxième vague de la modernité que Rousseau inaugure. Or, les conséquences de cet ancrage des droits du citoyen dans le sentiment de l'humanité se manifestent non seulement par le dépassement de l'esprit intéressé et du rationalisme scientifique comme fondement de la perception humaine, elles se manifestent également par l'abandon du raisonnement délibératif de la philosophie classique et de la modération qu'il suppose, pour favoriser, en revanche, des jugements politiques généralisés, catégoriques, à terme universels. Étant le principe même du jugement pratique, le sentiment de l'humanité, à la différence de la générosité classique, n'a pas de juste milieu pour le mesurer. Dans la critique rousseauiste de la raison, le sentiment de l'existence de l'individu ou du commun remplace le nous de la philosophie ancienne comme l'arché de la perception. Au niveau du social, le principe du raisonnement, voire la raison, ne correspond qu'à une hypostase eidétique de ce sentiment, qui se retrouve d'abord dans l'esthétique transcendantale de Kant, puis, suivant la dialectique du maître et de l'esclave, dans l'idée absolue de Hegel. Enfin, ce fondement se retrouve dans l'esprit critique de la philosophie marxienne de la praxis. À l'encontre de la primauté du nous, celle de l'aesthésis de l'humanité en philosophie moderne pose toutefois le risque de réponse émotive et précipitée aux questions aléatoires de la pratique. Bien que le formalisme juridique de Rousseau et de Kant s'oppose au déboire possible des sentiments, les limites du formalisme déjà indiquées signalent dans quelle mesure la difficulté se maintient. Rousseau lui-même, dans le cinquième livre de l'Émile, tenant compte du problème de l'aliénation positive, l'expose avec charme dans la comédie romanesque de Émile et Sophie. Pourtant, suite à l'oubli de la nature humaine et des formes diverses de l'aliénation, les textes de Marx suggèrent une autre dimension du problème de la sensibilité pratique ou de ce qu'il appelle la primauté de la pratique critique, voire de la praxis sur la théorie. Ici, je n'ai plus de temps, je pense, et je vais juste indiquer au moins les sujets à traiter, et ensuite je termine ces deux paragraphes. J'allais faire quelques remarques sur la signification du fait qu'à la différence de Marx, pour Rousseau, le problème humain encore est issu de l'aliénation de sa nature et du fait que l'origine de l'aliénation se trouve dans la vie sociale en tant que telle. Ça signifie que la solution au problème économique ne résout pas le problème politique. Et de ce fait, Rousseau estime que le problème politique est sempiternel avec l'existence humaine. De là, je reviens vers la question posée au début sur la question de l'art du politique constitutionnel. la critique que fait Rousseau de la politique constitutionnelle de Montesquieu. Mais à l'égard de cette critique, je note les optiques différentes qu'on peut avoir sur le régime commercial, c'est-à-dire que les fondements du régime commercial ne sont pas forcément fondés sur les prémices de la philosophie politique moderne. Et Rousseau, en accentuant uniquement ces fondements dans la philosophie moderne, il radicalise la perception du régime de la démocratie libérale. Alors je ne peux plus parler de ça, donc je termine. Lorsque Rousseau critique la philosophie au nom de la pratique, la poésie qu'il instaure comme horizon de la praxis nouvelle occulte le fondement de sa propre pensée. Respectez votre espèce, dit-il, songez qu'elle est composée essentiellement de la collection des peuples. Quand tous les rois et tous les philosophes en seraient ôtés, il n'y paraîtrait guère, et que les choses n'en iraient pas plus mal. Autant par son charme que par sa logique, sa plume lance l'itinéraire de la philosophie critique allemande. La finesse de ce charme et son étendue sur l'esprit de Kant ont été reconnues par Nietzsche lorsqu'il essayait de le surmonter dans « Par-delà bien et mal ». Et encore plus tard, la perception de la pénétration durable de cette pensée avait incité Henri Bergson à constater que la plus puissante des influences qui soient exercées sur l'esprit humain depuis Descartes, de quelque manière d'ailleurs qu'on le juge, est incontestablement celle de Jean-Jacques Rousseau. Fin de citation. Pourtant, si comme ces auteurs l'ont démontré, la raison scientifique ne peut saisir l'humain en l'homme, et si l'art poétique occulte par ses charmes le génie qui en est l'origine, il faudrait, pour déceler ce qui leur échappe, une autre forme de raison. Antérieure à la science et à l'esthétique, cette autre raison serait nécessaire pour juger les principes du beau ou du droit qui inspirent la pratique pour le bien ou pour le mal. La question est de savoir si la philosophie critique est à même de remplir cette tâche, tandis que la philosophie critique issue de Rousseau est conçue pour dépasser le scepticisme et le dogmatisme, elle reste toutefois ancrée sur une synthèse des deux. Et cet ancrage contribue à l'oubli à la fois de la philosophie zététique et des trois modes de raison qui en sont les expressions, science, poésie et raison pratique. Certes, la science et la poésie se manifestent en version modifiée dans la philosophie moderne. Or, la raison pratique classique, phronesis, y est entièrement effacée, tout autant que la philiates sophias. Ainsi, dans une lettre écrite à Erich Voeglin le 14 mars 1950 au sujet de la crise du rationalisme, Léo Strauss remarque « Si je ne me trompe pas entièrement, la racine de toutes les ténèbres modernes depuis le XVIIe siècle se trouve dans l'occultation de la différence entre la théorie et la praxis. Occultation qui conduit d'abord vers la réduction de la praxis à la théorie, c'est ce que signifie le soi-disant rationalisme, et ensuite, en revanche, vers le rejet de la théorie au nom d'une praxis qui n'est plus intelligible en tant que praxis. » Fin de citation. Pour apprécier si le problème de l'union de l'humanité et de la justice, on aurait en effet à identifier les composantes de cette unité dans la pensée de Rousseau. Mais pour dévoiler ces éléments, il faudrait d'abord rappeler une idée de vérité, le manque d'oubli, aletheia, antérieure aux vraisemblances de Descartes et Rousseau. De cette archéologie de l'esprit, on devine par-delà la science de l'homme et au travers les mystères orphiques de l'Émile, le sens originel de la philosophie politique.
Merci beaucoup. Bien, bah écoutez, nous avons un peu dépasser le temps qui nous est imparti, mais pas trop. Donc, j'ouvre sans tarder la discussion à propos des deux communications que vous venez d'entendre.
Donc, ma question s'adresse à Pierre Manon et elle prend pour point de départ la célèbre phrase de Voltaire selon laquelle il y a bien un Michel de Montaigne législateur, mais que ce Michel de Montaigne législateur, c'est précisément Montesquieu. Et elle prend aussi pour point de départ la phrase de Rousseau, cette fois, dans l'Émile, où il dit que le seul homme illustre qui aurait été capable de fonder le droit politique aurait été Montesquieu, mais que précisément il ne l'a pas fait, il n'a pas fondé les principes du droit politique, il s'est contenté de décrire et d'expliquer les gouvernements existants. Donc si Rousseau fait ce geste par rapport à Montesquieu de distance sur la question du rapport à la loi, s'il définit la loi donc comme expression de la volonté générale, je me demande dans quelle mesure on peut aller aussi loin, disons, dans ce Rousseau montesquiolien en un sens. Et j'en voudrais pour preuve, en fait, le passage du manuscrit de Genève, qui correspond au chapitre sur le législateur du contrat social, où Rousseau se démarque très brutalement de Platon et du politique, et où précisément, s'il ne donne pas au législateur le pouvoir de légiférer, comme vous le rappeliez à juste titre, c'est pour éviter que le peuple ne soit en situation d'obéir, c'est-à-dire précisément de se soumettre. Il ne veut pas que le politique prenne en quelque sorte prétexte du fait qu'il voit le bien ou le juste pour imposer sa volonté au peuple. Hein. Il y a des phrases, des passages magnifiques dans le manuscrit de Genève. Donc voilà, si vous voulez, pour abonder dans le sens un petit peu d'un législateur qui soit un vrai législateur.
Oui, c'est... Voltaire, toujours trop rapide, a bien vu qu'il y avait des points communs entre Montaigne et Montesquieu, et en particulier cette attention à la diversité humaine. En même temps, il a manqué ce point que Montesquieu est, je dirais, le moderne qui a fait les plus grands efforts pour, rétablir d'une certaine façon le législateur dans les conditions nouvelles. Le livre de Montesquieu s'adresse à un législateur véritable. Le livre de Montesquieu s'adresse, comme la politique d'Aristote, à un législateur véritable qui peut en faire usage. Le livre de Rousseau, ce n'est pas lui faire injure, n'a jamais été utilisable par aucun législateur que ce soit. Donc, il y a cette différence. Rousseau-Montesquieu, il dit bien ce que vous avez rappelé. En même temps, vous vous en souvenez, dans ce texte dont j'ai cité un extrait, auquel j'ai renvoyé, 2.11, je crois, quand le législateur de Rousseau entreprend quand même de faire quelque chose, il est réduit à utiliser l'esprit des lois. Toutes les références qu'il donne sont celles de l'esprit des lois. Donc je crois que, d'une certaine façon, l'usage que Rousseau fait de Montesquieu justifie plutôt mon propos. Et quant à la question de l'obéissance, et c'est évidemment la dernière partie de votre remarque, c'est évidemment très compliqué, mais Rousseau ne veut pas que le peuple obéisse au philosophe qui a vu le vrai, le beau, le bien, mais pour obtenir ce grand résultat, il faut qu'il redéfinisse complètement les conditions de l'établissement humain, redéfinition complète qui a pour résultat un homme, un citoyen essentiellement obéissant. Donc je crois que les deux ne sont pas contradictoires. Si l'on veut délivrer l'humanité de la position de celui qui commande, alors il faut que nous soyons tous désobéissants. Désobéissants. Je me suis trahi.
Je voulais poser deux questions à Pierre Manon. La première, c'est tout à l'heure, en évoquant Saint-Just, quelqu'un a été horrifié. Or, moi, lorsque je lis Saint-Just, j'ai l'impression de lire du Rousseau. La question que je vous pose, c'est que lorsque les vertus civiques deviennent des vertus révolutionnaires, que saisies par anxiété de salut public, naturellement, la faction au pouvoir va instaurer le règne du terrorisme. On voit bien Rousseau dans Saint-Just. Pourriez-vous nous dire s'il y a du Saint-Just dans Rousseau ? Première question. La deuxième question importante, c'est que vous parlez de la désobéissance, mais la pensée de la désobéissance, elle est déjà inscrite depuis la Révolution française. La désobéissance a été d'abord, naturellement, la réaction des jeunes hégéliens contre la philosophie hégélienne qui a voulu, effectivement, rationaliser la raison dans l'État tel qu'il a été élu par les pensées hégéliennes, et que les premiers désobéissants ont été précisément les anarchistes, ceux qui ont voulu précisément inscrire la raison dans l'histoire. Ce sont eux qui ont voulu inscrire la raison dans l'histoire contre l'État, contre la force de l'ordre. Et avec l'énigme résolue du monde de la marchandise tel que Marx l'a inscrite, à savoir que l'énigme de l'aliénation, elle n'est pas simplement la négativité que porte naturellement la scission de la conscience, de la contradiction originaire qu'est l'homme en lui-même dans sa conscience telle qu'elle a été résolue par la philosophie hegelienne, mais elle est inscrite dans la division de la société en elle-même que porte l'économie politique, et c'est cette énigme résolue que porte précisément la volonté d'en découdre à la fois avec le monde de l'économie et avec le monde de l'aliénation. Et ce que disait Engels à la fin de sa vie, et c'est peut-être ce que vous me disiez à la fin de votre exposé, la conscience arrive toujours trop tôt et devra être enseignée. Il nous semble que vous-même, en disant qu'il faut désobéir, vous nous dites aussi que vous nous apportez une certaine conscience et qu'il faut aussi l'enseigner.
Juste. Alors, sur le second point, nous n'aurons pas le temps de reprendre tous ces thèmes. Mais sur le premier, Rousseau-Saint-Just, Rousseau et la terreur, c'est une question très compliquée, très débattue. Je crois précisément que si Rousseau si le contrat social peut motiver ou donner l'impression de motiver une politique terroriste, c'est précisément parce que la législation qu'il apporte est une législation fictive. C'est-à-dire, ça n'est pas une législation effective. La République de Platon, ce qu'on ne remarque pas assez, même si on le remarque parfois, c'est que la République de Platon n'a jamais été invoquée par aucune politique terroriste. Alors que cela aurait dû. Le communisme ne s'est jamais revendiqué de Platon. Au contraire, a toujours considéré Platon comme un adversaire.
Et Alain Badiou,
correction acceptée. Correction acceptée. Mais donc je crois quand malgré tout que l'exception que tu viens de mentionner ne suffit pas à invalider complètement mon propos. Donc voilà. Donc je crois que c'est plutôt ce qui manque de législation véritable dans la pensée de Rousseau, qui permet à une volonté sans règles de se croire justifiée.
Je voudrais moi-même, avant de passer encore la parole, vous poser une question sans doute assez naïve, Pierre Manant, mais comment se fait-il que Rousseau, penseur, comme vous l'avez expliqué, de l'obéissance, ait pu être l'inspirateur de tant de désobéissants, de tant de contestataires, ce qui lui a valu justement les commentaires indignés de 1912 et les commentaires émerveillés de 2012. Je voudrais peut-être comprendre mieux cela.
Je ne sais pas si Rousseau a tellement nourri la désobéissance. Il y a plus avant que moi dans l'Assemblée sur cette question et sur bien d'autres. Dans le mouvement révolutionnaire, dans le mouvement socialiste, il est peu présent, je crois. Il n'est pas une référence. Il est très influent, on dira, dans la sensibilité, dans la pédagogie, dans l'esthétique, dans la littérature. L'impact de Rousseau est plutôt dans l'ordre de la sensibilité, aussi importante que cela soit, plutôt que dans l'ordre de la désobéissance révolutionnaire ou politique. Et pendant la Révolution, là, c'est encore une fois question très disputée, ça rejoint la question précédente, mais il y a des études selon lesquelles, en fait, il a été au moins autant utilisé par les conservateurs ou par les monarchistes subsistants que par Robespierre, parce que, précisément, sa pensée étant hostile aux représentants, on pouvait toujours dire à la Convention nationale qu'elle usurpait la représentation. Donc, d'un point de vue descriptif, je ne suis pas sûr que Rousseau ait eu un rôle si important. Et quant à l'obsession, si vous voulez, de la pensée catholique conservatrice, je dirais que c'est un peu lié, non pas seulement au péché de Rousseau, mais aussi à un certain aveuglement spécifique à cette tradition si j'ose dire, avait besoin de quelqu'un pour résumer tout ce qu'elle détestait dans le monde moderne, et Rousseau a joué ce rôle fidèlement pendant près de deux siècles, et ce n'est pas complètement terminé. Je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu fortuit dans cette fixation, sauf sur ce point évidemment central, qui est la question du péché originel et de la bonté naturelle de l'homme. Si effectivement le péché originel est la condition de sens de l'ensemble de la proposition chrétienne, alors certainement Rousseau, qui est celui qui a critiqué cette notion de la façon la plus profonde, est légitimement l'ennemi du christianisme.
Bonjour, je m'appelle Lubomir, je viens de la Slovaquie, donc de l'Europe centrale ou de l'Est, si vous voulez, où d'ailleurs le livre de Madame Habib est bien apprécié, où on peut le lire. Et M. Finkielkraut est considéré comme l'un des derniers philosophes normaux que la France a encore aujourd'hui. À travers mes études sur la réception de Balzac en Slovaquie, en Tchécoslovaquie, je suis curieusement tombé sur quelques documents sur Jean-Jacques Rousseau, 1879, que j'ai rapporté d'ailleurs, où on trouve que Rousseau, pendant des dizaines pendant quelques décennies, fut interdit de lecture avec Voltaire, fin 19e, jusqu'en 89 du 20e siècle. Et je pense à ce propos à mon directeur de mémoire en Slovaquie, M. Krankus, qui est aujourd'hui président de la société de Sigmund Freud, qui a écrit une mémoire dans les années 60 sur Jean-Jacques Rousseau et les communistes l'ont brûlé. Donc on trouve, il m'explique il y a deux semaines, que c'est dû au fait que fin du 19e, dans l'Empire austro-hongrois, et plus tard à partir de 1918, on trouve l'Empire austro-hongrois et la Tchécoslovaquie plus tard qu'il faut absolument éviter de lire Rousseau et Voltaire qu'on ne s'inspire pas de ces idées révolutionnaires et qu'on n'aille pas jusqu'à la cour pour changer de régime. C'est pourquoi, pendant 80 ans, on peut lire Dumas, Balzac, qui sont appréciés, un peu détournés, si vous voulez, de leur message. Et ma question que je vais poser à vous, deux, trois, si vous me permettez, c'est plus sur la réception que sur le contenu. C'est que, est-ce qu'on trouve aussi aux États-Unis ou en Allemagne que pendant un certain temps, Rousseau est admiré, permis de lecture, et après, pendant 40 ans, non, interdit, et puis on revient sur la scène à nouveau, par exemple aux États-Unis, si c'est le cas, comme d'ailleurs en Slovaquie, où ça se libère après 1989. Merci de votre réponse.
Rousseau n'a jamais été interdit aux États-Unis. D'ailleurs, ça aurait été interdit par la Constitution de l'interdire. Mais il est vrai, il y a une sorte de débat sur l'influence possible de Rousseau sur la période de la guerre d'indépendance, sur les déclarations d'indépendance et notamment sur l'élaboration de la Constitution. La seule influence possible, c'était indirecte par Thomas Paine. Mais en général, il n'a pas eu beaucoup d'influence. Il est vrai que James Madison parle du texte de Rousseau sur le projet de l'abbé de Saint-Pierre, sur l'Union européenne. Mais il avait une mauvaise édition du texte, donc c'était une critique sur un point avec lequel Rousseau était d'accord avec lui. C'est le problème. Mais généralement, oui, Rousseau n'a pas eu tellement d'influence sur le constitutionnalisme américain. Mais il y a beaucoup d'intérêt pour Rousseau aux États-Unis, il faut dire.
Je voudrais juste ajouter à la lumière de cette dernière question que Alan Bloom, qui a enseigné très longtemps à l'Université de Chicago, a notamment étudié Rousseau pendant toute sa carrière, et qu'à l'opposé d'une influence révolutionnaire, il a en fait formé beaucoup de néocons aux États-Unis, dont Wolfowitz, etc., même si lui, plus tard, a déclaré qu'il n'était pas néoconservateur, il a eu une énorme influence, y compris à travers son livre « The Closing of the American Mind », avec lequel il est devenu millionnaire, donc il a eu énormément de résonance.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire de Alan Bloom que c'était un extraordinaire lecteur de Rousseau. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il était rousseauiste. Non. Mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur... Oui, mais encore une fois, d'abord, ce n'était pas forcément des néoconservateurs au sens politique que ce terme a pris. Mais encore une fois, de toute façon, la grande référence philosophique d'Alan Bloom n'était pas Rousseau, il était lecteur de Rousseau. Il était plus, je crois, aristotélicien et platonicien que rousseauiste. Mais enfin, je ne veux pas m'avancer trop sur cette question où il y a des avis beaucoup plus autorisés que le mien.
Ses écrits principaux, effectivement, étaient sur Platon, Rousseau et Shakespeare, d'ailleurs, mais sur beaucoup d'autres sujets aussi. Mais on ne pouvait pas dire par cela qu'il était partisan de Rousseau. Il était très intrigué par Rousseau. Mais les néoconservateurs ne sont pas des rousseauistes, on peut dire.
Bon, je me suis pas trompé, c'est bien.
Tu nous rassures.
Ben, vous m'excuserez parce que j'aimerais essayer de vous opposer l'un à l'autre et en commençant avec M. Manant, par rapport à la question, disons, de la justice de la loi là, ou du droit naturel chez Rousseau, au début de votre intervention, vous avez dit que chez Rousseau, la loi qu'il cherche à établir, vous avez commencé à dire elle est juste et vous avez corrigé en disant elle est légitime. Est-ce qu'il laisse entendre qu'il y a une loi qui est juste chez Rousseau qui serait différente de cette loi légitime dont vous parliez? Mais à la fin de votre intervention, vous suggériez que finalement, il n'y a rien qui dépasse la loi légitime qui est établie avec les critères formels qu'on connaît dans le contrat social. Alors que donc, et à l'opposé, M. Marchand insistait beaucoup plus sur ce qui est naturel chez Rousseau et qui semble être justement avoir une portée politique ou éthique et donc qui peut même servir à contredire, à désobéir à la loi établie selon la philosophie politique de Rousseau. Donc, est-ce qu'il y a un problème dans la pensée de Rousseau ici ou quelque chose que j'ai peut-être mal compris?
Non, je ne peux que répéter ce que je disais. Cette loi n'est pas une loi complète, si j'ose dire, parce que elle ne peut pas, par exemple, dire « cette distribution est injuste ». Donc nous allons instituer une juste distribution. La loi du contrat ne fait que, Rousseau le répète de toutes les façons, ne fait que confirmer la distribution des propriétés au moment de l'institution du contrat. Donc je crois qu'il y aurait d'autres arguments, mais je crois que cet argument est suffisant pour qualifier cette loi comme je l'ai qualifiée, d'où mon hésitation, qui je crois est une hésitation aussi de Rousseau, c'est la faiblesse de la pensée, entre juste et légitime. Et encore une fois, dans le chapitre 1.6, le mot de juste ou de justice n'est pas prononcé. Donc je crois en effet qu'il y a quelque chose de très particulier dans la législation rousseauiste. C'est une loi qui est juste en tant qu'elle est établie selon une procédure, mais qui ne répond pas à un critère de justice susceptible, par exemple, de justifier un changement de l'ordre social.
Il est vrai que Rousseau signale les circonstances par lesquelles la loi ne serait pas légitime. La fin du discours sur l'inégalité et effectivement tout le thème sur le sentiment de l'humanité. Donc il y a quelque chose qui peut... Il insiste sur la nécessité d'ailleurs. C'est un point que Thomas Jefferson avait repris effectivement sur Rousseau. Il avait un exemplaire de l'Émile dans sa bibliothèque, mais sur l'idée que chaque génération doit réexaminer la question constitutionnelle. S'il n'est pas d'accord, la constitution peut être bafouée. Mais un élément très important, il me semble, à l'égard de la notion de loi que développe Rousseau, malgré ses différences avec Kant là-dessus, sur la question de l'universel par rapport à la volonté générale, la loi acquiert un certain statut qu'elle n'avait pas dans la philosophie antique. Malgré le fait que, par exemple, en philosophie antique, la loi est très importante de respecter pour des raisons prudentielles, comme dans le Criton de Platon, par exemple, mais toujours est-il que la loi est un substitut pour la raison pratique. c'est ce que dit Platon dans le Politikos et c'est ce que dit Aristote dans la politique. Donc il dit c'est nous sans orexios, mais c'est l'intellect sans désir. Mais nous, c'est la perception particulière des choses dans leur particularité. Et ça signifie que la loi qui était adoptée est une perception spécifique d'un problème, mais ça cette perception spécifique n'est pas universelle. Et dans ce cas-là, il y a une certaine instabilité de la loi que Aristote lui-même veut surmonter en disant qu'on doit tenir compte de la tradition, toutes les conséquences de ne pas respecter la loi, mais c'est toujours pour des raisons prudentielles. Alors qu'il y a quelque chose dans la pensée de Rousseau, dans sa préparation pour Kant, où la loi devient identique avec la raison. Et c'est très différent. Donc c'est à partir de là qu'on commence à parler de l'état rationnel, ce qui pour Aristote ou Platon sera absurde. Ce n'est pas le cas. Aucun état rationnel. Chaque cité est une caverne.
Une dernière question.
Mais je dois dire aussi que pour Rousseau, la cité est une sorte de caverne, mais elle est nécessairement la caverne.
Madame.
Oui, j'avais une toute petite question pour Monsieur Manon. En fait, sur la question, un peu dans le même sens, sur la question du meilleur régime, parce que je me demandais dans quelle mesure, à la fois, bon, il n'y a pas de juste absolu politiquement pour Rousseau, mais il y a de l'injuste. Il y a de l'injuste, notamment dans la privation de liberté, dans je pensais notamment au texte sur la Pologne que vous avez cité. Il y a la question du servage qui se pose. Et du coup, je me demandais si, notamment dans ce texte-là, mais je pense à une incidence plus générale, la question du meilleur régime n'était pas réintroduite par la bande parce que se pose la question d'un régime qui permet la liberté de tous les hommes. Et dans le texte sur la Pologne comme dans le texte sur la Corse, en fait, ce sont des régimes démocratiques ou à tendance démocratique qui proposent. Donc voilà, est-ce que vraiment, finalement, si on pousse jusqu'au bout la question de à quoi ça pourrait s'appliquer, on peut imaginer vraiment un relativisme total des régimes.
Non, vous avez raison, mais on ne peut pas. Dès lors qu'on parle sérieusement de politique, on parle de la question du régime et on ne peut pas échapper à quelque chose comme une classification des régimes ou une hiérarchisation des régimes malgré tout. Donc il est clair que interprété dans le langage du régime politique, Rousseau va bien sûr du côté de la démocratie. Mais avec sa distinction entre la souveraineté et le gouvernement, la question de la souveraineté, je veux dire, en séparant la question de la souveraineté de la question du gouvernement, d'une certaine façon, il met entre parenthèses. Il démantèle la question du meilleur régime, disons. Il démantèle la question du meilleur régime parce que le gouvernement, finalement, qui, lui, a un nom de régime, importe peu, n'est-ce pas ? Où l'essentiel est fait une fois que la souveraineté est bien constituée. Donc, bon, on ne va pas rouvrir le contrat social, mais donc c'est déjà le cas avec Hobbes, n'est-ce pas, qui, au fond, à une philosophie de la légitimité politique, qu'on peut dire démocratique au sens large, mais qui choisit un gouvernement monarchique. Rousseau choisit un gouvernement. Enfin, il dit parfois que l'aristocratie est le meilleur gouvernement. Il y a une fluidité du propos de Rousseau sur ces questions, parce que précisément, la question du meilleur régime ne cesse de se poser à quelqu'un qui a fait tous les efforts pour penser l'ordre collectif hors de la question du meilleur régime. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Un dernier mot peut-être dans le sens de cette question. Vous disiez qu'il n'y a pas de critères chez Rousseau pour justifier un changement de l'état social. Est-ce que quand même le grand critère n'est pas celui de l'égalité.
Égalité et liberté.
Et est-ce que je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain ? Justement, l'homme qui récuse le péché originel voit le mal dans la politique, dans une certaine politique, d'où effectivement le recours quand même qu'a constitué Rousseau pour tous les penseurs progressistes, même si lui-même ne peut pas être classé parmi les progressistes.
Oui, mais c'est une égalité qui est toujours déjà là.
Ce n'est pas une égalité qui est instituée. La bonne loi empêche l'inégalité de se développer. Les bonnes lois figent en quelque sorte. La bonne société, c'est une loi c'est une société modérément inégale que les lois empêchent de bouger. Et quant aux critères du bon régime, on sait que Rousseau est extrêmement imaginatif en critères. Ça peut être la population, la quantité de population. C'est simplement l'adaptation aux circonstances particulières. Donc il y a un éclatement des critères parce que aucun critère, je dirais, enraciné dans une raison capable de dire ce qu'est le meilleur accomplissement de la nature humaine, parce que cette raison est absente pour Rousseau. Elle n'existe pas. C'est une capacité que nous n'avons pas. La raison ne peut pas réformer la société, encore une fois. La bonne société, c'est une société que la loi empêche de se corrompre. Mais ce qu'elle a de bon, c'est-à-dire une inégalité modérée, je me répète pour la dernière fois, est toujours déjà là.
Terence Marshall, vous avez le dernier mot pour cette discussion.
Je voulais juste ajouter, en ce qui concerne l'influence politique de Rousseau, il y a un point sur le plan négatif qu'on peut comprendre. Rousseau dit dans les dialogues qu'il était assez pessimiste pour l'évolution historique de l'Europe, c'est-à-dire il pensait à l'encontre de son argument contre l'abbé de Saint-Pierre sur la police inédite que la tentation européenne ce serait de former une union européenne, ce qu'il pensait serait une erreur, et il disait qu'il voulait surtout avoir une influence sur la Suisse. C'est-à-dire de les dissuader, de vouloir participer dans cette orientation. Dans ce sens, il voulait accentuer l'importance que les Suisses, bien qu'ils se séparent de cette orientation, maintiennent la formation militaire, qu'ils aient une armée, même si ce soit une armée qui n'entre pas en guerre, mais qu'ils aient toutes les vertus nécessaires pour garder cette indépendance. Et c'est un point important à noter, sur son influence.
Merci beaucoup. Donc, maintenant, il est temps de se reposer un peu.